I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir, bienvenue pour le meilleur de l'info. Ce soir, Estelle Youssoufa, bonsoir, député Lyotte de Mayotte. On a beaucoup de questions à vous poser sur ce qui se passe à Mayotte, opération Place Nette, Wombouchou. On verra, c'est un peu différent ce qui se passe. On n'est pas à la recherche de drogue là-bas, mais on en reparlera.
Il y a bien d'autres
sujets. Tatiana Renard-Barsac, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver après quelques jours de vacances. Et Vincent de Morandière, bonsoir. Vous êtes avocat pénaliste. Bonsoir. On va démarrer cette émission avec ce qui s'est passé à l'extérieur de Sciences Po, tout d'abord. On va parler aussi de ce qui s'est passé à l'intérieur. Mais d'abord, les images de cette bousculade. Disons que lorsque Jean-Luc Mélenchon passe quelque part... Il se passe toujours quelque chose à l'extérieur. Donc ce soir, il tenait conférence. On avait des partisans de la France insoumise et des opposants, notamment les membres du syndicat UNI qui dénoncent la tournée des universités de LFI qui fait campagne pour les européennes de fac en fac, d'amphi en amphi, on pourrait dire ça. Je crois que c'est le seul parti qui a cette stratégie de fac en fac, d'amphi en amphi, d'aller convaincre les étudiants. Aucun autre parti le fait. Imaginez si le RN faisait ça. Imaginez si les LR faisaient ça. Même Lyotte, hein, Charles Courson, vous voyez, d'amphi en amphi.
Ouais. Ah, il serait très populaire. Mais c'est pas certain. Charles de Courson touche à peu près tous les publics. Mais par contre, je pense que ça dit quelque chose, d'abord du fait de parler aux plus jeunes. Alors, ce sont pas des électeurs qui se mobilisent généralement. Là où on a vu les électeurs les plus jeunes aux dernières européennes, c'était les écologistes, en fait. C'est ceux qui avaient fait les manifestations pour le climat, qui sont allés à la surprise générale sans la mobilisation des partis voter. Ça avait été la surprise des européennes précédentes. Et là, en fait, on se demande si c'est tablé sur l'élection de Boyard, qui est le plus jeune député de l'Assemblée,
aussi le plus agité. Celui qui cumule le plus de...
C'est vrai, de rappel à l'ordre et de sanctions. Mais par contre, en fait, c'est vrai que c'est une logique du chaos permanent, de l'affrontement, de la mise en scène, qui est quand même très... qui interroge, parce que le climat de notre pays n'est pas franchement à l'apaisement. Et donc cette logique d'aller vers ces électeurs qui ont besoin d'être courtisés.
Avec une thématique qui est récurrente, qui est quand même la guerre à Gaza. Hein. C'est quand même
l'unique thématique.
Et c'est en ça d'ailleurs que c'est porteur au sein de ces amphithéâtres, il faut bien le dire. Je rappelle quand même aux téléspectateurs que la semaine dernière, une conférence justement dans une université à Lille a été interdite non seulement par le président de l'université et ensuite par le préfet du Nord. Ce qui a d'ailleurs valu les foudres de Jean-Luc Mélenchon, qui a trouvé ça absolument insupportable et qui a d'ailleurs utilisé des propos absolument odieux.
Eichmann, le patron
condamné par ses propres alliés de la NUPES, notamment Fabien Roussel, qui est vent debout, considérant que Jean-Luc Mélenchon a atteint vraiment la ligne rouge, franchi la ligne rouge d'ailleurs depuis assez longtemps. Mais il faut bien dire, donc cette thématique de la guerre de Gaza, avec Rima Hassan quand même en 7e position pour les européennes, évidemment est un thème aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon considère porteur auprès des jeunes.
En tout cas, il y a quelques minutes, il s'est frotté les mains évidemment de pouvoir faire sa conférence. Et puis, il a dénoncé ceux qui s'en sont pris à Rima Hassan, candidat LFI aux européennes, convoqué par la police ce week-end pour apologie du terrorisme. C'est quand même pas rien.
Que mes premiers mots soient pour la direction de cet établissement qui a permis que se tienne notre rencontre, au contraire d'autres qui, cédant aux pressions que par ailleurs ils dénonçaient, se sont mis à genoux devant la menace que, paraît-il, présentait ma présence et celle de Rima Hassan. Voilà maintenant une incrimination qui n'a pas le début du commencement de la moindre démonstration, qui vaut à Rima Hassan d'être convoqué. Il paraît-il qu'il y aurait aussi des députés, toutes sortes de gens, des étudiants de plusieurs grandes écoles qui se sont solidarisés contre le génocide. Je peux vous garantir qu'aucun d'entre nous n'a la moindre tentation d'apologie du terrorisme.
Voilà, donc vous le disiez, toujours cette victimisation, c'est pas nous, c'est...
Avec quand même des propos assez ambigus, il faut quand même le redire. Hein. Ces derniers mois, on a quand même eu vraiment beaucoup de propos extrêmement ambigus. C'est-à-dire quand Jean-Luc Mélenchon se défend aujourd'hui en disant « on n'a jamais fait d'apologie du terrorisme et d'antisémitisme », il y a quand même eu, je ne vais vous faire la litanie, mais la présidente de l'Assemblée nationale qui allait camper à Tel Aviv, on a eu le droit à Routel Kriev, une fanatique, on a eu le droit aussi au Hamas. Je rappelle quand même que dans le média Le Crayon, celle justement qui est aujourd'hui en numéro 7 sur sa liste, a considéré que le Hamas avait une action qui est tout à fait légitime et c'est-à-dire un acte de résistance.
Donc, maître,
c'est quand même assez grave.
Quand on compare le patron d'une fac à Eichmann, on risque quoi? Est-ce qu'on risque la prison?
Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que déjà, on est dans une logique d'injure. Donc en fait, on est simplement dans une atteinte à la liberté de la presse qui est sanctionnée à Paris par la 17e chambre, qui est une chambre, il faut le préciser, d'une part qui se nourrit clairement des débats. C'est-à-dire qu'il y a un débat contradictoire où chaque argument, chaque parti va pouvoir exposer ce qu'il pense. Et des juges de la 17e chambre qui sont assez mesurés, qui ont un respect profond de la liberté d'expression, mais aussi qui ont une conscience limite, très forte, des limites qu'il faut lui opposer. Et là, je pense qu'il y a un risque d'injure très clair. Et aussi, sur l'apologie du terrorisme, il faudrait voir ça plus précisément dans le contexte. Mais en tout cas, pour injure, il n'y a pas de problème.
Bon, vous savez qu'il y a un nombre de plaintes qui sont... déposées contre les élus LFI, mais elles ne sont pas toutes traitées pour l'instant.
Mais je pense qu'en fait, la question, elle n'est pas tant de l'injure, elle est sur le refus de condamner le terrorisme.
Oui, c'est ça.
C'est ça, en fait, qui est... Et c'est
l'ambiguïté.
Exactement, c'est la subtilité de Jean-Luc Mélenchon. C'est de toujours chercher à pousser la ligne et effectivement d'aller jusqu'au tribunal pour savoir et après se poser en victime pour dire
pardon,
que c'est un
procès politique.
Pardon,
mais ce qui est inquiétant là ce soir, c'est qu'on est à Sciences Po, on n'est pas n'importe où.
C'est non,
pas,
mais en fait,
pas,
c'est
n'importe
ça
quelle fac, on est devant l'élite.
C'est le jeu de
demain.
C'est le jeu de Mélenchon, c'est-à-dire de chercher la limite, d'aller jusqu'au procès, de se poser en victime parce que l'université est un lieu de débat, c'est l'idée. Et en fait, que ce soit un débat sans contradiction ne le gêne pas, que ce soit un risque pour la sécurité publique, parce que quand même, si le ministère de l'Intérieur dit qu'il y a un risque, c'est pas imaginaire, ne le gêne pas non plus. Au contraire, il va aller au-devant du danger pour provoquer l'incident, et c'est la prophétie autoréalisatrice. C'est ce qui est complètement déroutant et qui tétanise en fait le débat public. Nous, on regrette à l'Assemblée de ne pas pouvoir parler sereinement de la question... du conflit qui est en cours. C'est une tragédie humaine qui interpelle. C'est, là, vous avez parlé un peu plus tôt de Bessar, qui est dramatique pour les Juifs d'Israël, mais même les Juifs du monde entier, qui pensent à leurs otages. Et pour beaucoup, la tragédie de ce qui se passe à Gaza interpelle. Impossible d'avoir le moindre débat là-dessus à l'Assemblée, tant c'est toxique, tant... On est face à des positions irréconciliables,
mais imaginez comment c'est dans la société. C'est pas possible à l'Assemblée, c'est impossible
c'est
à la société. Il faut qu'on avance, mais vous dire quand même que ça fait 199 jours que la guerre a déclenché et qu'il y a toujours 3 franco-israéliens qui sont entre les mains des otages. Il y a 133 otages, 3 franco-israéliens dont on rappelle ici, vous le savez tous les soirs, le nom et la photo, Orion Hofer Oad, dont nous demandons la libération tous les soirs, sans condition. Et puis, il faut parler de la porosité de ce conflit avec la France, vous l'avez évoqué. Je vais vous montrer des images donc, qui viennent de Fontenay-sous-Bois ce week-end. Le maire a laissé son gymnase à une association pro-palestinienne qui a à la fois tapissé les murs de drapeaux palestiniens puis qui a orchestré cette mise en scène. On passe sous un Porsche d'honneur, j'imagine. Ça, c'est pour un match de foot. Tout le monde porte des kéfiers jusqu'aux yeux, comme si on avait affaire à des terroristes qui allaient passer à l'acte. On a même des enfants qui participent à cette mise en scène. On les a floutés, évidemment, ceux qui tiennent le drapeau. Deux plaintes devraient être déposées, dont une pour apologie du terrorisme. Ça s'apparente à de la terreur.
C'est très compliqué parce que ce sujet est devenu, vous avez raison, fracture totalement la société française, est devenu explosif. On est forcément dans un camp, dans l'autre, il n'y a pas de nuance, avec des images parfois qui sont extrêmement choquantes. Et vous le disiez, encore plus quand on pense à ces 130 et quelques otages et ces nombreuses femmes encore aux mains des terroristes du Hamas dans la bande de Gaza, avec un sort qu'on imagine absolument terrifiant. Et c'est vrai que les politiques ont une responsabilité en la matière, parce que la parole politique, là, dans cette situation explosive, avec en plus ce qui s'est passé avec les drones iraniens, et d'ailleurs c'est pour ça que la conférence d'ailleurs, a été interdite pour des raisons de sérénité du débat public, est extrêmement problématique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a 34 000 morts aujourd'hui dans la bande de Gaza. C'est un drame humanitaire.
Je pense que c'est en fait très important, parce que là, ce qu'on voit, c'est quand même c'est une injure qui est faite à la population palestinienne. Parce que d'utiliser cette iconographie du Hamas, du djihad, parce qu'en fait, c'est à ça que renvoie ces images.
Là, c'est le djihad. Hein.
En fait, c'est à ça que renvoie cette image. C'est aux mises en scène qu'il peut y avoir chez certains terroristes palestiniens, où on met en scène une parade, le kéfié, etc., qui est une idéologie, qui est une mise en scène de guerre à des fins de propagande. Et ça, ce n'est pas la Palestine tout court. Il faut quand même arrêter d'insulter la mémoire des victimes palestiniennes, du combat politique juste et d'un conflit qui a de vraies racines historiques et le réduire à des terroristes. Enfin, moi, je suis profondément choquée. Et c'est ce qui est douloureux, c'est de dire que ces images, en fait, annihilent l'injustice qui est faite à des Palestiniens, aux morts dont on parle. Et en fait, on est en train de terroriser tout le monde, de manipuler quand même des jeunes personnes, a priori, à des enfants
qui sont
en train de participer à cette mise en scène. C'est une abjection totale.
Il y a un maire qui a donné son accord et une association qui est bien connue.
En fait, la question, donc, c'est est-ce que le maire savait
de manière électoraliste, on n'est pas n'importe où.
Je suis désolée, je me dis, mais quel maire peut imaginer qu'on va mettre quelque chose pareil en scène sur le territoire national. C'est-à-dire que c'est tellement abject, c'est tellement grave. Et ensuite, évidemment, et c'est l'objet de cette mise en scène, c'est que ça circule. C'est de le diffuser, que ce soit sur les réseaux sociaux, et c'est alimenter les clivages.
Il y a un antisémitisme d'atmosphère, on en parle tous les jours, on en a parlé aujourd'hui encore avec le maire de la petite ville de Mion, c'est près de Lyon, qui après une série d'attaques antisémites, a décidé de démissionner, il s'appelle Claude Cohen, écoutez.
Avec le nom de famille que je porte, je suis systématiquement attaqué avec des propos antisémites. J'ai déposé plainte. La personne qui a été entendue, elle a été en garde à vue 2 heures. Une deuxième personne qui avait fait des dessins de moi antisémites, j'ai déposé plainte. Et puis, il a été condamné à 3 mois avec sursis. Mais ensuite, il y a eu une erreur de procédure classée sans suite. Ça fait du mal quand on entend certaines personnes au niveau national des élus, dont je tairai les noms que vous connaissez. Il y a un ancien candidat à la présidence de la République, il y a des députés de la France insoumise qui tiennent des propos désastreux vis-à-vis du judaïsme. Donc ça me fait très mal. Tout le monde me dit « Non, Claude, reste ». Non, mais j'ai déjà prévu de partir. Dans ma tête, je suis déjà un peu parti.
En fait, je vais vous dire. Oui. Je vais vous dire, ça c'est terrible parce qu'en fait, c'est un échec collectif. C'est notre pays qui a quand même envoyé des juifs à la mort pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a connu l'antisémitisme à la fin du 19e avec la montée des discours antisémites, les sages de Sion, etc. On est en 2024, un siècle après, et ce monsieur qui a des cheveux blancs, donc vraisemblablement...
Il a plus de 70 ans, je crois.
Voilà, qui a certainement connu une partie de la Shoah, se retrouve, lui, dans cette espèce de cauchemar, de retour de l'histoire, comme si on n'avait rien appris. Et ça, je pense que pour nous, c'est une souffrance terrible. C'est de se dire, nos compatriotes de confession juive, pratiquants ou pas, c'est même pas la question, par leur patronyme, en sont venus à ne plus pouvoir servir la République, ne pas pouvoir servir leurs compatriotes, pour certains, pas pouvoir porter la kippa, etc. Mais je pense que c'est pour nous tous, pour le corps social national, c'est une souffrance incroyable, c'est une souffrance intime pour nos compatriotes, mais pour nous collectivement, ça doit vraiment nous interpeller.
Il a décidé de laisser tomber, hein. De toute façon, faire aucun recours, etc. Maintenant, c'est vrai que c'est un échec. Qui va faire de la politique ? Qui a envie de faire de la politique aujourd'hui ?
Et en même temps, il s'exprime, et en même temps, il dénonce ce qui se passe, et en même temps, il est là, il est devant les images. Et ce soir, c'est la fête de Pessah, qui est la fête de la libération d'Israël. C'est-à-dire que Israël passe, en fait, d'un état de servitude à un état de liberté, en passant par un désert. Et c'est vrai que c'est une fête très importante, qui doit interpeller, à mon avis, tous les croyants. Et moi, je suis assez marqué, parce que quand je vois ça, j'ai l'impression que ce sentiment réel de victimisation est partagé par les trois grandes religions. C'est-à-dire que, évidemment, en France, il y a un antisémitisme profond, ancien, inacceptable. Mais quand vous regardez bien, les chrétiens ont le même sentiment d'être pas respectés dans leur religion, c'est-à-dire que leur pensée sur la vie, leur éthique de la vie, etc., n'est pas prise en compte par les autorités. Et quand vous regardez même historiquement, le Christ est quand même un fondateur crucifié, si vous voulez, donc quelqu'un qui est persécuté. Et vous voyez les musulmans aujourd'hui qui se sentent en fait, alors qu'ils sont nombreux sur le territoire français et qu'ils sont in fine respectés aussi par les modèles de la laïcité française, qui se sentent en fait pas compris, pas respectés, pas aimés, etc. Et donc c'est vrai que moi, de l'extérieur, quand je vois tous les problèmes qui sont liés à la religion, le point commun qui me saute aux yeux, c'est le sentiment que tous les religieux, tous les croyants, tous les membres de chaque religion ont un sentiment de ne pas être respectés par les autres et par les autorités publiques.
Je voulais qu'on parle Gabriel Attal avec des jeunes à Nice pour lancer son offensive et tenter de faire baisser la violence chez les mineurs. Première idée, l'opération Internat. Pour éloigner les enfants de leur milieu familial et scolaire, et tenter grâce à des éducateurs et à Nice même, je crois qu'il y a un ancien gendarme, de leur faire découvrir d'autres valeurs qu'on espère républicaines, laïques, aussi laïques que possible. Et mais le plus important, c'est peut-être cette manière de responsabiliser les parents, des parents défaillants. Ça, c'est un nouveau terme qui vient d'apparaître dans le vocabulaire de Gabriel Attal et puis du gouvernement. Ils sont débordés, ils sont démissionnaires, en tout cas ils sont défaillants et à mon sens, c'est ce qui est le plus important à retenir ce soir.
J'ai annoncé un certain nombre de mesures aussi qui vont faire l'objet de la concertation qui sera menée par les ministres et notamment le garde des Sceaux pour qu'on puisse plus facilement reconnaître le manquement à l'obligation parentale de parents qui sont défaillants. Aujourd'hui, il faut attendre un manquement grave pour pouvoir retenir le non-respect de l'obligation parentale. Je souhaite qu'on puisse faire évoluer la loi pour que plusieurs manquements légers mais répétés puissent également nous permettre de retenir le manquement à l'obligation parentale. Et ensuite, il y aura de nouvelles sanctions pour les parents qui ne respectent pas leurs obligations et notamment qui pourront aller jusqu'aux travaux d'intérêt général. Et donc, il faut que le placement en internat soit systématiquement proposé comme une solution. Si des parents le refusent et que leur enfant ensuite se livre à de la délinquance, ça sera une forme de circonstance aggravante dans leur responsabilité.
Alors, je crois que c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on dit, bon, les enfants, les éloigner de leur milieu. Mais parents, si on les met à l'internat, c'est parce que vous êtes défaillants. Donc, vous êtes défaillant parce que vous êtes débordé ou démissionnaire, mais attention, ça aura si un problème, si vous êtes démissionnaire, ça se réglera aussi devant la justice.
Il y a une responsabilisation aujourd'hui des parents, hein, c'est vraiment le fil rouge, avec une distinction cependant qui est faite entre les familles dépassées et les familles défaillantes. C'est-à-dire que le Premier ministre tient à faire une distinction entre les familles dites monoparentales avec ces mères qui élèvent seuls leurs enfants et qu'il faut aider, et puis les familles défaillantes où pour le coup il y a une démission de l'autorité parentale. Et donc là, il y a sanction. Donc, première étape, c'est on demande aux parents, on incite les parents à mettre leurs enfants en internat. Et puis une étape aussi qui me semble très importante, c'est considérer aussi que quand, par exemple, le père est parti, même depuis des années, il y a une responsabilité conjointe des deux parents, ce qui est tout à fait nouveau. Considérer que le père doit aussi être mis à contribution et payer pour réparer les dommages, ou en tout cas quand même il y a non-comparution des enfants. Voilà. Donc ça, c'est quand même pas mal de nouveautés, et je trouve que c'est assez intéressant comme piste.
Il y en aura d'autres. Il y a d'autres
Moi, j'avoue que je trouve ça assez... ça relève du génie politique quand même, de subitement avoir une révélation sur le fait qu'il n'y ait pas d'Immaculée Conception. Vous voyez ? Évidemment qu'il y a deux parents qui en ont fait un enfant. Enfin, je veux dire, de se dire qu'à un moment, politiquement, on réalise que... toutes les mères célibataires ne sont pas des Vierges Marie, ça me paraît un peu sous le bon
attendez,
sens.
Attendez, Estelle, on vient de s'apercevoir d'une chose, c'est-à-dire les enfants qui font des bêtises, les parents ne sont pas responsables. On vient de s'en apercevoir il y a quelques jours. On dit, c'est pas toujours le cas, ils sont pas toujours responsables, ça dépend des cas, ça dépend des tribunaux.
J'ironise, mais en fait, je suis très sérieuse, parce qu'en fait, je pense que, évidemment, c'est fondamental que le père soit mis devant ses responsabilités. Parce qu'un des sujets, c'est l'autorité paternelle, la figure paternelle.
Là, c'est vraiment les parents, c'est nous.
Parce que quand on dit, quand vous le distinguo qui est fait entre les parents défaillants et les parents, vous avez dit,
dépassés,
c'est la mère célibataire. Ça veut dire que c'est celle qui a fait un gamin toute seule. Elle n'a jamais fait un gamin toute seule. Il y a eu un père qui s'est barré ou qui n'a pas été là. Elles sont très peu veuves en réalité. Et la société a collectivement accepté que les pères démissionnent. Et donc ça, à un moment, ça pose un sujet. Parce que on ne peut pas dire aux femmes, vous allez travailler, élever les gosses, toutes seules, et après on va vous faire porter la...
Vous voyez, c'est un discours de féministe et vous avez raison. Cela dit, Tatiana, je pense qu'à un moment donné, c'est quand même normal de responsabiliser.
Du point de vue du droit, moi je trouve qu'on s'est aperçu il y a quelques jours que... les parents n'étaient pas responsables.
Alors,
les parents ne sont pas toujours responsables de tout.
Permettez-moi de distinguer là-dessus. De quelle responsabilité parle-t-on ? Au niveau de la responsabilité pénale, celle qu'on connaît, celle qui entraîne une sanction pénale qu'on peut connaître en termes de prison, par exemple, un sursis ou une peine de prison ferme. Il y a un principe démocratique qui est incontournable, c'est que chacun n'est responsable que de son propre fait. Donc il n'y a pas de responsabilité pénale pour autrui, à part dans le milieu de l'entreprise. Mais ça, c'est un autre sujet. Bon, donc les parents ne sont pas responsables pénalement pour leur enfant mineur. Par contre, quand leur enfant mineur est condamné pour une infraction, ils sont responsables sur le plan civil. C'est-à-dire qu'eux, ils ont déjà une responsabilité civile pour la réparation du préjudice. Et on a vu, par exemple, dans le cas des émeutes qui étaient menées par des mineurs, des parents condamnés solidairement à plusieurs centaines de milliers d'euros de dommages et intérêts, parce qu'il y a des voitures incendiées, des villes incendiées.
Il y a vraiment des parents qui ont été condamnés à des centaines de milliers,
Parce qu'en fait, il y a une responsabilité, il y a un principe de réparation intégrale. Alors, je dis pas que c'est eux qui vont être saisis tout de suite, mais je dis qu'en fait les autorités auront un mobile pour les suivre.
Bon, il y aura des changements dans la loi.
Pardon, parce que moi, pour le coup, la loi, c'est ce qu'on fait à l'Assemblée. Nous, pour le travail qui doit être fait pour la loi Mayotte, vous savez qu'à Mayotte, une grosse partie de la violence qu'on subit est commise par des mineurs, et ce sont aussi des mineurs qui sont souvent victimes. Là, ce matin, c'était 4 bus scolaires qui ont été attaqués à Kungu, avec des dizaines d'élèves qui allaient à l'école qui ont été attaqués par d'autres jeunes extrêmement violents. Ils ont tout détruit.
Qui ne pouvaient pas aller à l'école pendant très longtemps.
Hein. Et donc qui sont effectivement aussi traumatisés. Et là, sur ce que vous venez d'évoquer, moi, je vais vous dire, on s'est mis à dépiauter un peu le code pour essayer de comprendre comment il était possible que ces jeunes, bah par exemple, quand vous discutez avec le juge à Mayotte ou le procureur, il vous explique quand il y a une mise en cause d'un mineur, le parent ne se présente pas. Et en fait, la justice ne peut pas opérer parce que ce mineur, il ne peut pas être gardé en détention sans qu'il y ait un adulte qui en prenne la responsabilité s'il est en dessous de 16 ans. Et donc, moi, je propose... En fait, si le parent ne se présente pas, il n'a plus l'autorité parentale. En fait, moi, je ne peux pas continuer à dire aux victimes, vous comprenez, il a potentiellement un parent, mais le parent a des droits, mais il n'assume pas sa responsabilité.
Il se passe quoi quand un parent ne se présente pas ?
L'enfant est relâché. Parce qu'on ne peut pas légalement garder cet enfant. Ah, écoutez, pardon monsieur, mais en fait, c'est ce qui se passe à Mayotte. Donc en fait, la police et la gendarmerie ne peuvent pas garder en détention, pas préventive, mais en garde à vue, un mineur comme ça, il faut qu'il y ait un adulte qui prenne sa responsabilité.
Réponse technique, en fait, devant le juge pour enfants notamment, quand le mineur ne semble pas représenté, en fait, ou alors quand il y a un problème de représentation, c'est un administrateur ad hoc qui est nommé, en fait, par le tribunal et qui va représenter l'enfant et qui va lui désigner un avocat et qui va être un administrateur ad hoc.
Je vous parle avant, là. Je vous parle de quand vous sortez, quand vous êtes dans une émeute, vous venez de tout caillasser, la police, la gendarmerie ramasse la bande de barbares en culottes courtes. Ben en fait, si vous n'avez pas un adulte qui se
vous
présente...
Vous parlez de la remise d'apparent au moment de la garde à vue.
Parce que c'est au moment de la garde à vue,
mais c'est une autre phase.
Avant d'aller chez le juge, vous êtes quand même en garde à vue, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, on n'a aucune réponse. Quand le parent ne se présente pas, vous n'avez aucune réponse. Et pour moi, c'est là que ça commence. Vous ne pouvez pas dire... Ces mineurs, je ne dis pas vous personnellement, mais vous ne pouvez pas dire que ces mineurs sont en fait irresponsables et leurs responsables, quand ils ne se présentent pas, gardent l'autorité parentale mais pas la responsabilité.
En l'occurrence, c'est ce qui est prévu par Gabriel Attal, c'est justement de responsabilité aussi les parents et les sanctionner en cas de non-présentation.
On a d'autres sujets, vous allez voir. Gabriel Attal, il a annoncé d'autres choses. Saisie des motos. Saisie des motos alors que vous faites des rodéos. C'était pas possible.
C'est de plein droit.
La saisie des motos, c'était pas le cas. On va en parler dans un instant. Il est 21h30 et je salue Simon Guilin qui va vous rappeler les principaux titres.
Bonsoir Olivier et bonsoir à tous. Le procès en appel de l'attentat de Nice s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises spéciale de Paris. En première instance, Mohamed Graieb et Chokri Chafroud avaient été condamnés à 18 ans de réclusion criminelle. Il s'agit de deux proches de l'auteur de l'attentat au camion Bélier qui avait fait 86 morts. C'était le 14 juillet 2016. La fermeture de l'autoroute A13 entre Paris et Vaucresson, prolongée de plusieurs jours, elle est fermée depuis jeudi dernier et elle ne rouvrira pas avant le mercredi 1er mai si toutes les conditions sont réunies. Cet axe majeur d'accès à la capitale a été fermé après la détection d'importantes fissures sur la chaussée. Et puis l'opération de Kenji Girac s'est bien passée et il est désormais sorti d'affaire. Des informations communiquées par des proches du chanteur ce lundi soir en quittant l'hôpital de Bordeaux. Cette nuit, Kenji Girac a été blessé par balle au thorax dans des circonstances qui restent encore très floues. Aucune hypothèse n'est donc écartée à ce stade de l'enquête et des proches du chanteur ont été entendus cet après-midi par la police, cher Olivier.
Merci Simon. Drôle d'histoire, cette affaire de Colt 45 de Kenji Girac. Retrouvé dans un fossé, le Colt, etc. Il y a beaucoup de questions. Quelqu'un veut réagir sur Kenji Girac?
On lui souhaite un prompt rétablissement.
Oui. C'est le principal, c'est la base. T'as raison. J'espère que ce n'est pas un chantage, en fait. J'espère que ce n'est pas un chantage, en réalité. On n'a pas essayé de le flinguer en lui disant « Écoute, tu nous donnes plus d'argent ». Ça s'est mal passé, on a balancé le pistolet. On verra, il y a une enquête. Donc, on parlait des internets, ça ne va pas suffire. On parlait de la loi. Sur la table, le Premier ministre a pris conscience qu'il fallait changer plusieurs points dans la loi, tout en considérant que les mineurs restent des mineurs. La première fois, ça sera excusable. Ce qui va changer, c'est en cas de récidive. Et là, on a l'impression que le gouvernement veut de la fermeté. Vous allez nous dire si c'est nouveau ou si c'est... C'est réchauffé. À tout de suite. On écoute.
J'ai d'abord annoncé que je souhaitais qu'on puisse aller un cran plus loin sur certains dispositifs. Exemple, un jeune qui a commis un acte de délinquance qui est sous contrôle judiciaire, qu'on puisse le mettre en placement de nuit pour éviter que pendant la durée de son contrôle judiciaire, quand il attend la sanction, il sorte le soir, la nuit, surtout si ses parents n'arrivent pas à le faire rester chez lui, on puisse lui imposer d'être placé dans un établissement la nuit, la journée. Il va en classe. Le soir, il est placé dans un établissement. Ça, c'est une première évolution que je propose, qui sera dans le texte que nous présenterons. Deuxième mesure que je propose, la composition pénale. On puisse aller plus vite dans les sanctions, une mesure qu'a portée le garde des Sceaux. Exemple, un jeune qui fait du rodéo urbain, qui empêche tout un quartier de dormir la nuit avec sa moto, qu'on puisse immédiatement lui saisir sa moto, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Il faut un certain temps. Il faut réunir le tribunal avec un juge pour enfants, des assesseurs. Là, il faut que ça soit possible tout de suite. Troisièmement, amende immédiate aussi. Aujourd'hui, pour prononcer une amende, il faut, encore une fois, réunir le juge des enfants, les assesseurs en format tribunal. Je souhaite que le procureur puisse immédiatement prononcer cette amende sans attendre la décision par un juge.
Bon alors, la saisie de la moto, c'est ce qui m'a... La mini-moto, normalement, c'est du bon sens. T'empêtes tout le monde, on te saisit la moto, tu prends une amende. Donc, moi, j'apprends que l'amende, on ne peut pas la mettre, mais on va pouvoir le faire. Et alors que la moto, elle n'était pas saisie.
Alors, le bon sens que vous invoquez est, en fait, est déjà d'actualité, puisqu'en fait, dans le code pénal, quand vous êtes condamné pour un rodéo urbain, en fait, il y a une saisie automatique de plein droit du véhicule qui a servi à ce rodéo urbain, sauf motivation spéciale du juge. C'est-à-dire qu'en fait, le juge doit s'expliquer, je vais dire presque s'excuser, de ne pas saisir le véhicule. Il faut vraiment relever des motifs spéciaux. Et dès que l'infraction est constatée, les enquêteurs peuvent faire un PV d'immobilisation du véhicule en vue, puisque la peine de confiscation est prévue. Donc ça, sur ce point-là, il n'y a pas de grande nouveauté.
Le placement dû pour les mineurs sous contrôle judiciaire.
L'État, alors, je pense que ça se
substitue. Hein, il va falloir organiser pour le coup des internats dans les commissariats.
Alors je pense que La politique présentée par le Premier ministre marche sur les deux jambes, la partie qui relève de la réponse judiciaire et la partie éducative. Et en fait, ça, c'est très important, parce que évidemment, on n'est quand même pas tous idiots. On a bien compris que c'est quand même, il va falloir plein d'angles différents pour réussir à donner une réponse à nos jeunes et ceux qui basculent. Parce qu'en fait, démographiquement, c'est 6% de la population qui a les mineurs et c'est 30% des actes de violence qui sont commis en France. Donc, il y a à l'évidence un sujet. Tout ne va pas être réglé en famille, tout ne va pas être réglé à l'école, tout ne va pas être réglé dans la rue, il va falloir une réponse complexe et commune. Par contre, je veux revenir sur l'ensemble des déclarations qui ont été faites, des annonces du gouvernement. Mayotte, c'est la moitié de la population qui a moins de 20 ans. C'est le territoire le plus jeune de France, avec la Guyane. On est face à une violence qui est inouïe. Tout ce qu'on peut évoquer ici dans l'Hexagone, c'est ça au carré, c'est-à-dire des jeunes... très petit, moins de 13 ans, et on a, Dieu merci, pas de narcotrafic à Mayotte, en tout cas pas dans l'ampleur qu'on peut connaître aux Antilles ou en Guyane. Donc c'est vraiment une violence gratuite et extrêmement violente. Couper à la machette des gens en morceaux, je peux vous dire que...
Il y a des tout petits qui sortent
et puis qui participent à lyncher quelqu'un en pleine journée, qui se baladent dans le centre commercial avec des machettes ou qui vont attaquer leurs camarades dans le bâtiment scolaire. Ça se produit tous les jours à Mayotte ou dans les bus scolaires.
Là, il n'y a plus de parents et plus personne.
Et donc là, la question, c'est quelle est la réponse que l'on peut offrir. Moi, dans tout ce que j'entends, il y a quand même un fondamental qui est qu'il y ait un établissement pénitentiaire pour Mayotte, pour un établissement pénitentiaire pour mineurs. Ça vous paraît un peu l'évidence, la moitié de la population comme on entend. Il n'y en a pas à Mayotte. Il n'y a pas d'établissement pénitentiaire pour mineurs à Mayotte. Là, celui qui est en construction, ça fait un peu quelques années qu'on attend, il y a 30 places. 30 places. Moi, j'ai une population scolaire de 100 000 jeunes qui sont scolarisés à Mayotte et environ une dizaine de milliers qui ne le sont pas. Ça veut dire que l'État considère qu'avec 30 places, on va offrir une réponse sur un problème qui est extrêmement important, qui demande une réponse. Bon. Par exemple, on est en année olympique, je vais terminer, mais on est en année olympique, le sport. Moi, je suis avec les électeurs de ma circonscription. Ils m'envoient des messages tout le temps. On est sur des groupes WhatsApp, on discute. Ils m'ont dit, madame la députée, la politique sportive, elle n'existe pas à Mayotte. On n'a pas les infrastructures et nos collectivités locales. Moi, je pense que c'est fondamental, ça, la question du sport, en fait. Ça veut dire que mes jeunes, ils seraient occupés jusqu'à tard le soir. Ils ne seraient pas en train de caillasser.
Vous pensez vraiment que le sport va les empêcher de découper les gens
qu'avant que les bandes les recrutent, si ces jeunes sont occupés, c'est en fait extrêmement important.
Mais si c'était magique
important.
Comme ça, tout le monde ferait du sport.
Mais en fait, si quand vous regardez,
parce qu'il y a pas de solution magique.
Non, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'elle devait être complexe. C'est qu'en fait, c'est complémentaire, mais en fait, on peut pas dire sur une question de zones où il y a des fortes densités de jeunes, se dire que ce sont des collectivités qui n'ont pas les moyens budgétaires de maintenir des équipements sportifs à hauteur, se dire que en fait, le sport, ça veut dire les occuper, éviter quand la mère est seule, mais en fait, elle sait que le gamin, il est au club de judo. Ça veut dire avoir une vie dans la communauté, ça veut dire de la fierté, ça veut dire un sentiment d'appartenance, ça veut dire des valeurs morales et éthiques, ça veut dire respecter l'autre. Et ça, je vous dis que c'est très important, parce qu'en fait, ces jeunes, quand vous discutez avec eux, ils ont zéro empathie. Mais quelque chose de
mais
complètement
désarticulé. Mais ils se sentent appartenir à qui? À quoi? À quelle nation?
À plus personne, et c'est pour ça que la question d'aller construire du vivre ensemble, elle est aussi le pendant de la réponse judiciaire et
ce qui me semble évident, c'est qu'on passe pas d'un coup de joueur de machette là.
Ah oui, et c'est pour ça que je vous dis ça. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est parce que je me dis, j'ai besoin non seulement de mon établissement pénitentiaire pour les jeunes à Mayotte, et j'ai besoin de mes stades. J'ai besoin de moyens pour qu'on arrive à avoir une réponse, et que évidemment, quand j'entends les uns et les autres, les enseignants qui grimpent au rideau, qui sont en train de nous dire on est les seuls en première ligne face à ces jeunes, chaque réponse qui est proposée, c'est non, c'est pas assez, c'est à côté. Je veux dire, il va falloir prendre le morceau à un moment.
On a entendu. Il faut qu'on marque une pause. On va parler de l'excuse de minorité juste après, parce que ça, vous n'en avez pas parlé.
Pas encore.
À tout de suite. Bon, je voulais finir par un dernier extrait de Gabriel Attal. Alors, sur des propositions qui sont en discussion pour modifier la loi, d'abord, ça concerne l'excuse de minorité, et puis la comparution immédiate pour les mineurs. On va l'écouter.
Dans cette logique d'efficacité pour aller plus vite, la possibilité de créer une comparution immédiate pour des mineurs. Aujourd'hui, si vous avez deux jeunes, un de 17 ans, un de 18 ans, qui sont interpellés parce qu'ils ont commis un acte de délinquance, celui de 18 ans va pouvoir être jugé tout de suite. Celui de 17 ans va être déféré immédiatement, peut reconnaître sa culpabilité, mais pour la sanction, il va falloir une procédure plus longue, avec plusieurs mois, pour qu'il puisse être sanctionné. Dans des cas, là aussi, de récidive ou des cas graves, qu'on puisse atténuer l'excuse de minorité. Évidemment, il faudra mettre un âge à partir duquel on peut le faire, donner un certain nombre de conditions. Et j'ai missionné le garde des Sceaux pour qu'il puisse animer cette concertation et ce travail dans les toutes prochaines semaines, pour que d'ici à l'été, on puisse annoncer des décisions sur le sujet.
Bon, ça c'est important. Alors c'est une discussion. D'ici cet été, l'idée de changer les règles pour la comparution des mineurs, ça semble aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe avec les mineurs, la justice des mineurs, on se dit qu'il faut agir. Donc oui.
Ah oui, mais là, il faut agir autrement, hein, parce que ça, c'est la comparution immédiate pour les mineurs, c'est pas du tout une solution à mon sens.
Mais Thibault de Montbrial, qui était ce matin sur l'antenne de CNews, disait bon, il faut inverser, il faut que l'excuse de minorité devienne l'exception.
D'accord, mais ça c'est possible, ça c'est
on sur inverse la règle des sanctions. Le paradigme.
En fait, il faut raisonner en amont. Et alors, la comparution immédiate, il faut quand même y aller. C'est assez simple, c'est gratuit. Vous allez à la 23e chambre à Paris, il y a trois chambres. Vous allez voir ce que c'est. C'est-à-dire, c'est une justice qui va très vite. Vous avez des magistrats qui encaissent des heures et des heures et des heures d'audience. C'est une justice on va le dire aussi, c'est dur à dire, un peu de classe, parce que c'est un type de délinquance avec des gens très marginalisés, qui sont des gens souvent de la rue, et c'est une justice pénale très dure. Intégrer la justice des mineurs qui doit être sous le bénéfice de l'ordonnance de 45 et du code pénal de la justice des mineurs, dans ce mécanisme-là, ça me semble peu opportun.
C'est toujours pas de bon, Tatiana.
Bah, d'abord, je rappelle quand même qu'il y a une réforme du code pénal des mineurs, hein, et avec une, de coup, en deux temps, une décision en deux temps qui permet justement d'avoir ce temps-là pour
mais
une
qui rend moins lisible.
Qui rend beaucoup moins lisible, évidemment, et qui ne répond plus à la problématique aujourd'hui, justement, avec une sanction effective et immédiate, parce que sinon, en effet, elle n'est pas forcément comprise ou acquise.
C'est-à-dire que pour trouver la peine juste, il différait dans le temps le prononcé de cette peine.
Et je pense que c'est exactement ce que vous évoquez, c'est-à-dire que le jugement est immédiat, mais c'est la sanction qui est beaucoup plus tardive. Et pour moi, il me semble que c'est très important pour nos jeunes d'avoir cette réponse très rapide, parce qu'en fait, c'est exactement. Et je pense que c'est l'objet de ce que propose le Premier ministre, et c'est très important parce qu'on voit sur des jeunes esprits qui sortent du juge, qui n'ont pas compris la temporalité différente des tribunaux, qui sortent de là les mains dans les poches et en fait, en attendant la sanction, ils récidivent.
Non, mais par exemple,
c'est-à-dire que c'est très dur à vivre pour les victimes, vous imaginez, parce qu'en fait...
Vous parliez des enfants de 10 ans, 13 ans qui utilisaient la machette au quotidien et qui étaient violents, parfois ils sont sans doute des meurtriers. Qu'est-ce qu'il faut
quelle justice je suis désolée parce que
j'ai compris,
un petit peu élaboré, mais en fait, ces jeunes-là, ils commettent un acte violent. Ils ont la famille qui ne se présente pas. Ils sont, présentés, si on a un petit peu de chance, quand même devant un juge. Et là, on délibère, ça va prendre plusieurs mois. Ils sont relâchés en attendant. Ils sont relâchés dans des familles d'accueil qui ne connaissent pas leur situation judiciaire. C'est-à-dire que ces enfants présentent un danger pour les autres jeunes qui sont accueillis dans cette famille et pour les familles d'accueil. Nous, on a beaucoup de familles d'accueil qui viennent se plaindre à Mayotte de découvrir la dangerosité des enfants qu'elles accueillent. Il y a des services pour l'enfance qui sont absolument totalement saturés, pas les structures, et ensuite qui auront... Donc le gamin, il est récidive. Hein, moi, on a tous été petits. Si on ne vous dit pas non, vous continuez. Donc il recommence. Et puis en attendant, il refait un tour chez le juge qui dit un petit délibéré. Et en fait, gamin, il est dans l'escalade. La réponse du monde adulte, elle n'est pas là. Elle n'est pas là dans les délais. Et moi, je comprends que la réflexion est importante. C'était l'objet d'avoir ce délai. Mais on se rend compte qu'avec des gamins qui sont de plus en plus violents, en fait, il faut une réponse immédiate et une sanction.
Mayotte Place Net, opération qui a démarré la semaine dernière. 1700 hommes, femmes et militaires mobilisés. Opération sur terre et sur mer. Présentation par le préfet de Mayotte.
Une opération qui a changé de nom, Mayotte Place Net. On a plus de 200 habitats insalubres à détruire. On a environ 300 à 400 personnes à reloger. On a engagé des effectifs de gendarmerie pour sécuriser la zone. Et puis l'équivalent en termes de police, à la fois le RAID, la police de proximité, la police de voie publique, pour faire en sorte que nous puissions sécuriser la zone et faire en sorte que dans une phase offensive, nous n'ayons pas à subir les assauts d'un certain nombre de personnes qui sont opposées à cette opération.
Au Wambushu 1, ça n'avait pas marché ?
Ah si. Si, ça avait marché. Le problème, c'est que ce Wambushu 1 avait été arrêté. C'est-à-dire avait été interrompu par les émeutes dans l'Hexagone et donc l'effort qui devait s'étaler sur plusieurs mois a été interrompu. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à entendre que Wambushu 1 a été un échec, parce que ça a été tellement un échec que nous, on le redemande. Wambushu 2, ça a été une demande de la population et une demande des élus. Et puis, en fait, je vais prendre le contre-pied de votre question, c'est que qu'est-ce qu'on fait si on ne fait pas Wambushu ? Moi, je le dis à celles et ceux qui dénoncent Wambushu 1 ou 2 ou 8, c'est en fait de dire que la loi de la jungle, c'est normal, l'illégalité absolue, c'est normal, construire au mépris de tout le droit à la propriété, des bidonvilles qui sont insalubres, on laisse faire.
C'est la même chose sur l'illégalité. En fait, c'est une loupe absolue qui devrait nous permettre de réfléchir davantage.
Nous interpeller, plus vite. Oui.
Alors, je vais un peu nuancer votre propos, parce que vous restez évidemment de votre position de député, mais Cela dit, ça a été perçu quand même comme un échec par les habitants et par beaucoup d'observateurs, parce que seulement 700 cases détruites et 60 personnes interpellées, ce n'était pas du tout l'objectif initial. Aujourd'hui, l'objectif, il est de doubler justement ces effectifs, c'est-à-dire 1300 cases détruites. Donc c'est les bidonvilles, en fait, j'explique ça pour nos spectateurs. Et puis 60 chefs de bande qui auraient été ciblés selon la ministre d'État aux collectivités territoriales. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est un succès, parce que sinon on ne ferait pas un numéro 2, on ne ferait pas une classe naine numéro 2 à Mayotte. Et surtout, la solution a quand même largement empiré, malheureusement, parce que l'immigration a continué et que l'insécurité a continué.
Pardon, mais non. En fait, je pense qu'il ne faut pas être dans l'illusion de penser que Wambushu va régler 20 ans d'inertie.
Ah non,
personne n'a pu prétendre le contraire. Et je pense qu'il ne faut pas penser qu'en quelques semaines, ni même quelques mois, on va régler le sujet. 1500 cases, peut-être. Il y a plus de 50 km carrés à Mayotte qui sont occupés par des bidonvilles, des constructions illégales, sur un territoire de 375 km carrés. Donc 1500 cases, c'est infinitésimal. Ce que je dis, c'est que ce qui est très important avec Wambushu, c'est la mobilisation des services de l'État, et c'est sortir de ce discours d'inertie, de Mayotte, c'est inextricable et d'on ne fait rien.
Dernière question.
Dernière
toute petite question. L'abrogation du droit du sol, projet de loi qui doit être constitutionnel, qui doit être vu en mai.
Alors, c'est la loi Mayotte et l'abrogation du droit du sol qui doivent présenter le 22 mai. C'est la convergence sociale pour Mayotte. C'est,
alors, il faut rappeler que vous naissez à Mayotte de parents venus de manière irrégulière. Vous pouvez accueillir la nationalité française à partir de 13 ans et à partir de là, obtenir des droits de séjour pour les parents.
Ah non, ça commence dès la naissance en fait, de l'enfant. C'est-à-dire que la machine démographique à Mayotte, elle s'explique par les trous dans la raquette au niveau du droit des étrangers. Donc à Mayotte, vous naissez... administrativement, l'enfant est jugé potentiellement français, donc protégé jusqu'à ses 18 ans. Et par là, ses parents sont régularisés. C'est ça qui motive la machine démographique. Donc la question de l'abolition du droit du sol, elle est fondamentale, parce qu'elle dit tout projet migratoire est voulu à l'échec à Mayotte. Ce ne sera pas la seule réponse. C'est pour ça qu'il faut une présence en mer pour fermer la frontière. C'est pour ça qu'il faut changer la relation avec les Comores et dire en fait ce pays est en train de coloniser.
Mais ça ne sera jamais constitutionnel, ça,
jamais. Ça suppose une révision de la Constitution, c'est-à-dire un vote à l'Assemblée et au Sénat dans les mêmes termes. Ensuite, une adoption 3/5 ou un référendum. Ouais. On verra si c'est le cas ou pas.
On est condamné à réussir hein, de toute façon.
Condamné à réussir. Merci beaucoup Estelle Souffa d'avoir été avec nous. Vincent de la Morandière, Tatiana, dans un instant. Vous avez rendez-vous avec Maureen Vidal pour le 22h et puis Julien Pasquet, 22h30 évidemment. Et moi, je remercie comme tous les soirs Valérie Acna et Florian Doré qui m'ont aidé à préparer cette émission. Bye bye, à demain.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.